Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC.
RMC, midi 15h.
Les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Vous êtes toujours dans le best-of d'Estelle Midi sur RMC et j'espère que vous y êtes bien. On est ensemble jusqu'à 15h et dans cette deuxième heure, on va parler de salaire. Seriez-vous prêt à baisser votre salaire pour avoir une meilleure qualité de vie? On parlera également du bac. Doit-on le supprimer? Et puis, méga profit du CAC 40. Doit-on obliger les patrons à augmenter les salaires? La seconde partie du best-of d'Estelle Midi, c'est maintenant sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Et on va débattre tout de suite autour de l'étude du jour. Et cette étude, elle porte sur les comportements des Français au travail. Et elle révèle qu'on est peut-être en train de changer d'époque. Plus d'un Français sur deux serait en effet prêt à gagner moins pour avoir une meilleure qualité de vie, Rémi.
Exactement, c'est ce que dit le rapport People at Work 2022 réalisé par ADP Research Institute. Dans le détail, 27% des salariés français seraient prêts à concéder une baisse de salaire s'ils avaient la possibilité de bénéficier de la flexibilité de leurs horaires de travail. Et plus généralement, 57% d'entre eux seraient d'accord pour réduire leur salaire au bénéfice d'un meilleur équilibre entre leur travail et leur vie privée. Pas surprenant, à en croire une autre étude réalisée cette fois par le cabinet de recrutement Robert Half. À la question « Êtes-vous satisfait de l'équilibre entre votre travail et les autres aspects de votre vie ?» Eh bien, seuls 12% des actifs français répondent oui, dont seulement 3% se disent très satisfaits. Et à contrario, 65% des sondés se disent insatisfaits de l'équilibre travail-vie personnelle, dont 18%, c'est comme pas rien, 2 sur 10, pas du tout satisfaits. Un taux loin d'être suffisant donc, alors même, selon Marina Chenet, qui travaille au sein de ce cabinet, que depuis quelques années, l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle fait partie des aspirations des actifs, ce qui n'était pas du tout le cas, selon elle, dans une époque pas si lointaine, aspiration encore renforcée, et ça on le sait, depuis la pandémie qui a remis en question pas mal cet équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Alors seriez-vous prêt à accepter une baisse de salaire pour une meilleure qualité de vie, Laure Clausier?
Non, jamais de la vie.
Pourquoi?
Parce que mon salaire c'est ma qualité de vie. Tout simplement.
Non, si vous n'avez pas le temps pour le dépenser.
Je le dépense dans mon prêt immobilier, moi. Donc, il est strictement hors de question de gagner moins d'un euro. Sinon, de toute façon, je passe sous le seuil des 33% d'endettement. Donc, c'est n'est absolument pas possible. Mais moi, je suis un petit peu obsédée par la question
de l'argent.
Oui, c'est mon côté BFM Business. Non, mais je suis pas facile en négociation. Je considère que c'est un sujet très, très, très important. Je fais des projections dans ma tête, dans combien je gagnerai dans 5 ans, etc. Voilà. On a un point commun et c'est mon mari qui voulait changer de travail il n'y a pas très longtemps. On m'a commencé effectivement à parler de son nouveau travail. Je lui ai dit mais c'est à combien? Et nous avons eu un petit conflit.
Et il n'a pas changé de travail donc?
Pas du tout, mais parce que la première question qui me vient,
mais
moi, c'est combien? Je sais, mais
c'est pas possible. Si vous voulez pas le bonheur de votre mari,
mais bien sûr que si. Mais moi, j'ai l'impression que je suis désolée. J'ai l'impression que le bonheur, c'est les sous. Je suis obsédée par les sous.
Il est milliardaire?
Lui, non, puisqu'il gagne moins de points.
Donc, vous voyez que le bonheur, c'est pas vos sous, finalement.
Mais si, il faut que j'en gagne plein, justement, parce que comme ça, après, lui, il pourra faire ce qu'il veut.
Et vous pourrez l'entretenir.
Mais moi, ça me rassure, je garde mon compte en banque tout le temps. Enfin, j'ai un petit problème avec les sous.
On sait jamais. Sur un malentendu, c'est voilà. Au cas où ça partirait. Très bien.
Donc, la réponse est non.
Et puis surtout, ce côté un peu insolite, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu seul au monde.
Ah, c'est vrai?
Les Français veulent d'abord leur qualité de vie. Regardez Pierre Rondeau, je suis sûre qu'il va me dire oui.
Non, je suis d'accord avec toi.
Il veut des sous. Ah bon? Il veut des sous. Maintenant,
Pierre. C'est un sur deux, donc c'est pas tous les Français.
57%. Mais Pierre, toi qui craches du feu tous les 21 juin sous les ponts à la fête de la musique,
il faut bien payer. C'est chiant. Ah oui. C'est tantaméo. Il faut les payer avec un salaire. Et je pars du principe que le salaire fait la qualité de vie.
Ah voilà.
Moi, je veux bien.
Mais si vous n'avez pas de temps, c'est-à-dire qu'en fait, si vous faites tous les jours 8h, 20h,
bien évidemment. Mais j'aurais bien aimé affiner cette étude et vérifier s'il y avait une corrélation entre actuel pouvoir d'achat et volonté, réponse ou non, à accepter de réduire son salaire pour avoir une meilleure qualité de vie. Je pense que ceux qui ont déjà la maison et qui ont déjà payé leur prêt immobilier, qui ont déjà les enfants qui sont partis de la maison, qui ont déjà un train de vie assez élevé,
et boomer, quoi. Élevé, plus vous avez envie d'avoir une meilleure qualité de vie.
Je passe de 5 000 à 4 000, ça va, je veux bien. Mais ceux qui sont aujourd'hui au SMIC ou au-dessus du SMIC, ça m'étonnerait qu'ils disent la même chose. Alors moi, je suis pas dans cette catégorie-là, mais moi, c'est mon avis personnel, et là-dessus, Laure, je suis peut-être d'accord d'accord avec toi. Le salaire fait la qualité de vie.
On est deux déjà.
Et donc, si j'ai un bon salaire, j'aurai une bonne qualité de vie. Je préférerais avoir un bon salaire.
Vous n'aurez pas une bonne qualité de vie parce que vous ne pourrez pas le dépenser. Vous n'aurez pas le temps de rencontrer des gens.
Rassurez-vous, j'irai à la fête de la musique et je pourrais.
Non, mais il n'y a pas que la fête de la musique. Mais en fait, si vous passez votre temps à bosser, même si c'est pour beaucoup d'argent.
Oh oui, mais alors,
après, vous allez avoir vos 3 semaines de vacances.
Quelle est la frontière, justement, effectivement, si on dit, est-ce que tu préfères gagner 10 000 euros par mois mais travailler 55 heures par semaine ou travailler
8 000 et travailler 40, moi, je prends 8
000. Non, ou alors travailler 15 heures par semaine mais gagner 2 000 par exemple. Mmh. Bien évidemment, je préfère gagner 2 000 et travailler 15 heures par semaine. Et donc, où est la frontière? Parce que travailler 55 heures, 60 heures par semaine, je ne pourrais pas. Mais avoir
moi,
une bonne
avec
moyenne.
Avec Laurent.
Bravo. Bah oui. Mais c'est vrai que l'argent fait le bonheur, donc effectivement.
Regarde, on rayonne. Exactement. Thierry, bon, est-ce qu'on n'assiste pas aussi, c'est ce que dit cette étude finalement quand même à une dégradation de la valeur travail, quoi. C'est-à-dire que nos parents, ils faisaient une seule entreprise, on les voyait jamais le week-end, ils bossaient comme des dingues, etc. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans, quoi.
Les jeunes sont plus du tout là-dedans, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit, ce qu'a un petit peu esquissé Pierre. Ça reste un problème de riches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bossent beaucoup, qui gagnent pas assez, qui pourraient pas se permettre, par exemple, de passer en 4 jours par semaine parce que, avec une perte de salaire, parce que tout simplement, ils n'y arrivent pas. Ça, c'est le premier point, donc ça reste quand même un problème de riches. La deuxième chose, c'est que, effectivement, je pense que toute la nouvelle génération, et je l'ai déjà dit ici et je le répète, ne voit plus l'accomplissement personnel forcément par le niveau de salaire et le travail. Alors, je suis pas d'accord sur le fait que c'est une baisse de la valeur travail. On peut respecter le travail, simplement, ça n'est plus le point d'équilibre central du bien-être global de la personne. La troisième chose que je dirais, c'est que moi, ça m'est arrivé d'abandonner un travail parce que, même si je gagnais beaucoup d'argent, parce que ça me bouffait la vie et je ne voyais plus mes enfants. Et il m'est arrivé de quitter des boulots pour des boulots qui gagnaient moins, mais qui me permettent d'avoir une qualité de vie meilleure.
D'ailleurs, merci d'être resté avec nous. quand je regarde mes enfants, ça me donne. C'est pour ça que je fais des petits tas, quoi. C'est-à-dire que comme ça paye mon crédit et que tout est lié à ça, je sais pourquoi je travaille beaucoup.
Oui,
travaille
sauf que moi, j'ai regretté à un moment de ne pas les avoir vus grandir. Et donc, parce qu'à un moment, dans la période professionnelle où mes enfants étaient petits, je travaillais énormément et je ne voyais pas mes enfants. Et aujourd'hui, je regrette de ne pas les avoir assez vus à cette époque-là. Et le choix que j'ai fait ensuite d'avoir un travail peut-être moins rémunérateur, mais avec un peu plus de temps libre à passer avec eux, me convient beaucoup mieux.
Moi, j'ai quasiment jamais. Enfin, mon père était médecin, j'ai quasiment jamais vu mon père le week-end. Quoi. J'ai pas de souvenir avec mon père le week-end. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est. Enfin, plus personne ne fait ça, en fait.
Oui,
c'est,
ah,
c'est,
si, c'est... en horaire décalé. Ou alors, il faut travailler chacun son tour dans un couple.
Ouais, mais donc, que... vous voyez plus jamais votre conjoint.
Ouais, voilà.
Ce qui peut être un problème. Enfin, excusez-moi. Alors,
ou une bonne chose.
Oui, aussi, non, mais c'est un problème de le dire. On a beaucoup, beaucoup de témoignages sur ce sujet. Tiens, on a Max qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Max.
Bonjour.
Max, est-ce que vous seriez prêt à une baisse de salaire pour avoir une meilleure qualité de vie?
Tout à fait. Alors moi, je lirais ça au fait de changer de métier. Hein. Voilà, je d'un domaine d'activité dans lequel je travaille, effectivement, on m'impose de travailler chaque week-end.
Vous faites quoi?
Conseiller commercial dans la branche automobile.
Ah oui, d'accord. Oui. Donc, on achète les voitures le week-end. Donc, effectivement.
Bah, pas tant que ça, finalement.
Ah bon?
Non, ça a un petit peu changé. Maintenant, la clientèle est plus qualitative, finalement, la semaine que le week-end. Hein. Ça a un petit peu évolué. Donc, ça n'a plus forcément l'utilité que ça pouvait avoir avant, effectivement. Mm-hmm. Mais effectivement, voilà, le petit... Enfin, j'ai un enfant qui est plutôt petit. Donc, pour l'instant, le fait de ne pas me voir le samedi ne pose pas trop de problème. Mais quand on va arriver à un moment où il aura des activités, des choses comme ça où je pourrais pas, voilà, il va me faire ressentir, t'es pas là, tu viens pas, c'est quelque chose qui va me peser énormément parce que clairement ma vie, c'est pas que mon fils, mais évidemment il en prend une grande partie, donc voilà, c'est quelque chose qui va me peser. Et maintenant, aujourd'hui, je suis prêt à rogner sur certains points, et en l'occurrence
vous gagnez combien, Max?
Faut compter à peu près 4000 euros brut par mois.
Et vous seriez prêt à baisser de combien pour avoir une meilleure qualité de vie?
Ah, aujourd'hui, si on me fait une proposition sur un boulot qui peut me plaire, parce qu'il faut quand même que ça me plaise aussi, je suis pas prêt à tout sacrifier, mais aujourd'hui, même si j'avais une baisse de salaire de 1000 euros par mois, honnêtement, c'est...
Ah ouais, donc un quart du salaire, quoi.
Ah ouais, je serais prêt à faire le saut, honnêtement. Mais après, attention, lié aussi au fait d'avoir moins de stress, parce qu'aujourd'hui, ce qui m'éclatait au départ, quand j'ai commencé à faire ça il y a 20 ans, ça m'éclatait, moi, de me remettre en question tous les mois, on tape dedans, on a un objectif un peu difficile, faut aller chercher, puis on avait la petite carotte à la fin, enfin la grosse carotte, on va pas se mentir, à la fin qui était intéressante. Maintenant, honnêtement, de recommencer tous les mois, c'est un peu, voilà, c'est répétitif, c'est quand même usant comme métier. Et voilà, donc c'est, si je pouvais passer quelque chose d'un petit peu plus light sur ce point, ça serait bien.
Bah merci pour ce témoignage, Max. C'est très intéressant quand même. Accepter de rogner sur un quart de son salaire pour avoir une meilleure qualité de vie, ça c'est un truc qu'on n'aurait jamais entendu il y a 10 ans. C'est impossible. C'est donc c'est vraiment un changement d'époque. On a Sonia également qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Sonia.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Moi j'ai une opinion mais totalement différente.
Bah, c'est pas grave.
Je suis pas prête à baisser mon salaire pour avoir une meilleure qualité de vie.
Gagnez combien Sonia?
Un peu plus que l'auditeur qui était avant
donc
moi,
5000.
Un peu plus de Max.
Vous gagnez bien votre vie.
Depuis, je suis chef d'entreprise, je travaille toute seule dans ma petite TPE, dans l'informatique. En tout cas, depuis la crise sanitaire et depuis les confinements, moi j'ai soif de voyage. Je me dis que je veux vivre maintenant et je veux pas vivre plus tard. Du coup, je suis pas prête à baisser mon salaire pour gagner moins.
Mais c'est un peu antinomique ce que vous dites, Sonia, parce que vous dites j'ai envie de voyager et tout, mais si vous voulez avoir du salaire, vous êtes obligé de bosser.
Alors moi je suis à mon compte, mais les salariés en France ont 5 semaines de vacances, donc ce temps-là j'en profite pour voyager, aller voir ce qui se passe ailleurs, avoir le dernier smartphone à la mode. Je suis rentrée dans une consommation à tout va, mais en tout cas je me sens plus heureuse comme ça. Que de compter à partir du 10 du mois ce qui me reste sur mon compte être frustrée de ne pas pouvoir me faire plaisir. Voilà.
Est-ce que vous avez des enfants, Sonia?
Oui, j'en ai deux. J'ai deux garçons.
D'accord, donc il y a ça aussi, le fait de pouvoir leur faire plaisir sans compter.
Bien sûr, je voyage avec mes enfants, je chouchoute mes enfants, mais je ne me sens pas prête à réduire mon salaire. La qualité de vie, c'est nous qui nous l'imposons. Et qu'aujourd'hui, gagner moins, ça veut dire plus de frustration. Le coût de la vie a augmenté, encore plus depuis qu'il y a la guerre aux portes de l'Europe.
C'est aussi passer plus de temps avec ses proches. Voyager, là vous dites que vous aimez les voyages, donc bien sûr on a 5 semaines de congés payés, mais c'est peut-être voyager plus, faire plus de choses pour vous en fait, c'est ça aussi une meilleure qualité de vie.
Oui, alors moi depuis la crise sanitaire, je travaille 100% en télétravail, donc je travaille à la maison, mes enfants d'accord. Je les vois, je passe du temps avec eux, je suis seule avec mes enfants, donc j'ai
vous
pas
avez les deux en fait.
Au mois de juillet, on va partir au soleil tous les trois, on va se faire plaisir. Si je réduisais mon salaire, c'est des choses qu'on ferait plus quoi.
Ça dépend vraiment en fait des catégories. C'est vrai que si on télétravaille, on voit ses enfants tous les jours, on va pas se poser la question moins de travail pour voir mes proches et ma famille.
Et puis en fait, il y a deux problématiques. Il y a ceux pour lesquels qui ont un travail qui est payé une certaine somme. Si ce travail peut être fait en moins de jours, il y a aucune raison qu'il y ait moins de salaire puisque le nombre de voitures vendues serait le même, par exemple pour un commercial de voitures. Donc il n'y a pas de raison qu'on réduise le salaire de quelqu'un qui fait le même travail en moins de jours. En revanche, aujourd'hui, que des gens dans l'appréciation de leur travail ils se disent, je vais peut-être choisir un travail qui est moins bien payé, mais qui me laisse plus de temps. Là, c'est une autre façon d'envisager les choses et la vie.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est ce rapport, ce que tu disais par rapport au travail, le rapport travail, et l'accomplissement personnel à travers le travail. Ce n'est plus le cas, je pense, aujourd'hui, des générations actuelles, des jeunes, qui s'accomplissent par le travail, et qui sont dans cette forme de consumérisme qu'avait notre auditrice, en disant, voilà, se faire plaisir, en s'achetant le smartphone à la mode, des vêtements et autres, des voyages. Je pense que de plus en plus de gens, alors peut-être que c'est au Covid, ou c'est un effet générationnel, mais aujourd'hui ils ne s'accomplissent plus via le consumérisme, via la consommation, mais via finalement le plaisir personnel de voir ses proches, de voir ses amis, de faire des rencontres,
peut-être de voyager petitement,
Effectivement, ça dépend qui, mais j'ai le sentiment qu'il y a de moins en moins de plaisir consumériste, qu'on n'est plus dans l'obligation de gagner des milliers et des cents pour se payer le dernier smartphone, pour se payer le dernier sac, et qu'on est juste là pour profiter de l'instant présent et de kiffer sa vie, si je puis dire.
Ah, c'est beau, vous avez plein de messages, Rémi, sur ce thème en tout cas. Est-ce que les gens kiffent leur vie?
Kiffent ta vie, mais il y a des alliés pour leur closier. Ah. Notamment Benouné. Je suis marié avec un clone de l'or. Je m'occupe des enfants le soir et le samedi et ça me va très bien. Je n'ai le temps que pour ça.
Il est bien, lui.
Et en cas de divorce, à moi la pension de compensation. Nous dit-il.
Ah oui. Ah bah oui. Vous n'avez pas pensé à ça alors. Hein.
si, j'ai pensé à ça. Mais attention quand même aux enfants parce que les enfants, c'est très ingrat. Hein.
C'est-à-dire
que
c'est toujours très
tout le temps, ils te disent que de toute façon, t'es là ou t'es pas là. Le résultat, c'est que t'es pas là.
Et tu dis qu'on les emmène en soirée.
Je suis tellement contente de te voir. Mon petit moment préféré, c'est le petit câlin. Moi, on me répond. Moi, mon moment préféré, c'est la cantine. Je veux dire, c'est
bien sûr.
Arrête de poser les bonnes questions.
Il y a son retour, tu vois, total.
Et il y a Sébastien.
Plus tard, ils viendront vous voir et ils te diront je t'aime, maman. Normalement, sache Laure que 5 minutes après, il y aura une demande.
Bien sûr.
Il y aura une demande de taxi, d'argent.
Eux aussi, ils aimeront l'argent.
Il faut le savoir.
Et un autre message, celui de Sébastien. Clairement, je travaille 5 jours par semaine sans compter mes heures et ce rythme de travail me permet justement d'avoir un bon niveau de vie. Le week-end, il en profite le week-end, il est hors de question pour moi de revenir aux 35 heures et de ne pas bouger de la maison le week-end, de ne rien pouvoir faire et de ne pas avoir de loisirs.
Alors, on est avec Benoît Serre, notre invité sur ce débat, vice-président de l'Association nationale des DRH et qui est très souvent, et on est ravis, dans Estelle Midi. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Benoît, bonjour. Petite question. Est-ce que vous avez beaucoup de salariés qui vous demandent tiens, de passer en 4-5e, justement, quitte à renier un peu sur leur salaire pour avoir une meilleure qualité de vie?
Non, on n'observe pas trop. On n'observe pas trop ce phénomène. En revanche, on observe le phénomène de salariés qui nous disent en fait, je vais m'en aller dans une autre boîte, plus petite, plus ceci, pas au même endroit, d'ailleurs pas en Île-de-France. Je sais que je vais être moins bien payé, mais je vais mieux vivre. Ça, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Bon, c'est vrai que j'ai entendu votre débat, je salue Laure et je comprends ses enjeux financiers, tout ça pour dire que je crois vraiment, mais je l'observe, que les gens demandent aux entreprises arrêtez de vous occuper de notre équipe de vie, quoi. On va s'en occuper nous-mêmes.
C'est-à-dire?
Donc, vous nous payez ce que vous nous devez compte tenu des compétences, des performances que je fais. Mmh. Et si j'estime que ce que je gagne chez vous, en fait, dégrade considérablement ma vie et j'ai pas l'intention de me faire tuer pour vous, elles s'en vont ou elles changent. Donc, je pense que le débat, il se pose plutôt comme ça. Après, le rapport à l'argent, c'est quand même très personnel pour les uns, pour les autres.
Et ça, je suis d'accord. Mais Benoît Serre, est-ce que vous êtes prêt, en tant que DRH, à faire des efforts, on va dire, à essayer justement d'écouter les salariés et à leur proposer des choses plus flexibles? Ou est-ce que ça, c'est impossible et que non, quand un salarié vient, vous lui dites, écoutez, si vous n'êtes pas content, dégagez, quoi?
Non, d'abord, je ne dis jamais ça à personne.
Mais non, je me doute bien, je schématise.
Je ne dis jamais ça à personne. Non, mais je crois qu'il faut écouter. Maintenant, il faut aussi savoir expliquer. Évidemment, moi, j'en ai, par exemple, ici, qui me disent... Ah bon, on est à 2 jours de télétravail, je voulais passer à 3 ou 4. Je leur dis, non, le fonctionnement de l'entreprise, il n'est pas comme ça. Maintenant, si vous considérez que c'est absolument vital pour vous, je serais le premier à le comprendre, et donc, j'ai pas de problème, mais moi, je le mettrais pas en place pour vous, parce que ce serait dégrader le fonctionnement collectif du tout. Mais par contre, je pense que la question de... Je pense que ce que ne comprennent pas certains de mes confrères, d'ailleurs, ou consoeurs, et peut-être que je comprends pas moi-même, c'est que les critères d'équilibre de vie ont changé dans la tête des gens.
Oui,
tout à fait.
Voilà. Oui. Ils sont plus prêts à renoncer à tout pour avoir un peu plus de fric ou une belle de fonction ou je sais pas quoi. Alors qu'avant, on a un peu été tous élevés comme ça quand même. Hein.
Oui.
Le côté douleur au travail, c'est vraiment des trucs qui sont en train de disparaître parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, à la fin de l'histoire, ça valait pas le coup quand même. Hein. D'une part, vous savez, moi j'ai toujours trouvé que Coluche était un formidable philosophe du travail. Et il disait, les gens n'ont pas besoin de travailler, ils ont besoin d'argent. Je pense que c'est moins vrai maintenant.
J'aime bien.
En fait, les gens, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'argent pour vivre, ils ont aussi besoin de vivre bien. Et que ce critère-là, il est arrivé pas en haut de la pile, mais il est un des éléments de la décision.
Oui, mais alors comment on fait pour une entreprise?
Justement, vous avez un autre phénomène qui là, je devrais vous parler, qui là est très nouveau et qui est très très troublant. Par exemple, vous savez qu'en France, on a un modèle de rémunération qui suit généralement un phénomène pyramidal.
Oui.
Or, là, je le constate tous les jours, les nouvelles générations, la carrière pyramidale où je deviens chef du chef, puis chef du chef du chef et que je monte, ça ne les intéresse pas. Vous savez, il y a une enquête qui a été faite l'année dernière, il y a 2 ans, sur 4 pays européens, qui montrait que cette enquête a interrogé 4000 non-managers. Il n'y en a que 15% qui ont dit « je veux devenir manager ».
Ah oui.
C'est-à-dire que la carrière
pyramidale... C'est un manque d'ambition, alors.
Non, ben voilà. Ben c'est intéressant, votre action. C'est pas un manque d'ambition. Il dit simplement, c'est juste que j'ai pas envie
dans ma vie.
De monter Pierre Ménon, parce que ça va me créer que des ennuis. J'aurai peut-être un peu plus d'argent, mais j'aurai moins de liberté, plus de stress, plus de ceci, plus de cela. C'est pas qu'ils sont pas motivés, c'est parce que ça les intéresse pas. Et dans la tech, c'est très vrai. Ils fonctionnent par projet. Ils ont pas du tout envie d'être chef du chef. Ça les intéresse pas du tout. Et ça, c'est la partie la plus compliquée, parce que nos modèles de rémunération sont conçus pour des carrières verticales. Ils sont pas conçus pour des carrières horizontales.
Mais merci beaucoup, en tout cas, Benoît Serre, d'avoir été avec nous sur ce débat. On vous a posé la question, tiens, est-ce que vous seriez prêt à baisser votre salaire pour une meilleure qualité de vie?
À votre avis?
Non.
Oui. Non.
À 67%, allez.
Tu l'as vu?
Mais pas allez voir.
Mais si, bien sûr, il triche.
On peut l'augmenter, il a raison. Ah, oui. 67% de non.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Et dans Estelle Midi, on va maintenant débattre autour du coup d'envoi du jour. C'est celui des épreuves de spécialité du baccalauréat. Alors, si vous avez des enfants qui passent le bac cette année, c'est pas la peine de stresser, hein, puisque en 2021, plus de 90% des élèves qui ont passé le bac l'ont eu. Le bac est devenu, Rémi, on peut le dire, une formalité.
Ce qui est sûr, c'est que les taux de réussite parlent d'eux-mêmes. Entre 1967 et 2020, année record, bon, il y a eu le suite Covid, hein, évidemment, le taux de réussite du bac a augmenté de 34 points. On est passé de 61,7% d'admis en 1967 à 95,7% en 2020. Et puis 2021, tu l'as dit, c'était un peu plus de 93%. Cette hausse spectaculaire du taux de réussite est accompagnée par une hausse aussi des mentions. En 1967, seulement 32% de bacheliers obtenaient une mention, quelle qu'elle soit. 50 ans plus tard, en 2017, c'était 47,3% des candidats, quasiment 1 sur 2, toutes filières confondues, qui ont décroché une mention, soit presque donc un candidat sur 2, le bac en poche. D'ailleurs, que font-ils ces lycéens après? Eh bien, presque la moitié d'entre eux, oui, mais après, presque la moitié d'entre eux optent pour le parcours universitaire, la licence qui attire le plus de monde. En 2021, 223 000 bacheliers s'y sont inscrits pour un parcours donc censé durer 3 ans. Problème, c'est ce que disent beaucoup, c'est là que la sélection est tout autre, c'est là que véritablement la sélection commence. Selon la conférence des présidents d'université, si 90%, c'est ce qu'ils disent, des étudiants se présentent aux examens de fin d'année, seul 1 sur 2 est admis à passer en deuxième année.
Alors, faut-il supprimer le baccalauréat? Parce que tout le monde l'a, Péricolégas.
Alors, ça dépend de quel baccalauréat on parle. Si celui qui sanctionne une scolarité et sélectionne ceux qui sont capables de rentrer en université, non. Alors, il faut non seulement le réhabiliter, le rendre plus sévère.
Ben oui.
Ce qu'il était, c'est un élément, c'est un instant fondamental, c'est une étape incontournable de la scolarité et de la vie universitaire. Aujourd'hui, le fait de l'avoir dévalorisé, et c'est de gauche et de droite, hein, c'est Chevènement qui avait dit qu'il faudrait que 80% d'une classe d'âge, on en ait 95%, c'est une machine à chômage. Voilà, c'est la première cause du chômage en France, c'est la première cause de l'appauvrissement de ce pays et du recul de la France dans l'échelle économique. Donc, c'est une étape très importante. On peut le remplacer par un suivi régulier qui serait plus efficace encore. Mais vraiment,
le contrôle continu. Oui, mais il y a des lycées qui seraient lésés. Vous savez qu'il y a des lycées où les notes sont plus hautes que d'autres. Donc,
et surtout les profs qui sont là, évidemment, qui ont envie de dire que leurs élèves sont dans la réussite.
Bah, exactement.
On a un problème scolaire, pédagogique, politique et philosophique dans ce pays. Le bac est un instant fondamental. C'est lui qui a fait que la France était une grande puissance par sa rigueur, par son exigence, par son niveau. Le fait d'avoir dévalorisé pour des raisons purement démagogiques les fameux pédagogues. Je dis qu'aujourd'hui, la tragédie que rencontre ce pays vient en partie de la dévalorisation du bac.
Mais c'est vrai qu'à un moment, on disait, pour faire de hautes études, il faut avoir le bac. Mais est-ce que finalement, on n'a pas menti aux jeunes, leur closier? Parce qu'aujourd'hui, je suis désolée, il n'y a pas, mais il n'y a pas 95% des jeunes qui peuvent faire des longues études et accéder à des postes. Voilà, c'est pas possible. Donc en fait, les mômes, on leur ment. Et il y en a, on sait très bien.
Alors qu'on ment.
Mais on dirait qu'au bout d'un an, ils vont aller dans des filières qui ne leur correspondent pas. Et puis finalement, ils vont perdre du temps.
Hein, on sera pas tous profs de socio.
C'est ce que j'allais vous dire. Je pensais aussi à la socio.
Ni prof d'histoire de l'art. Donc effectivement, il y a un mensonge. Après, il y a un mensonge dès le départ. C'est-à-dire que on envoie toutes les classes d'âge vers la voie générale en trouvant que c'est super et que tout le monde va faire ça. On a dévalorisé complètement. Enfin, c'est même pas qu'on a dévalorisé. Ça a toujours été dévalorisé les voies professionnelles.
Heureusement, on en revient là.
99% des élèves en voie professionnelle sont en situation d'échec scolaire et n'ont pas choisi leur voie. Donc c'est terrible. Et à côté
de
ça.
Garage.
Oui, mais c'est une voie de garage, alors que c'est des gens dont on a besoin dans des métiers en tension.
Et ce sera 100% d'emploi hein, pour eux.
Et c'est un secteur d'avenir. C'est un secteur d'avenir dont le pays a besoin.
Oui, en fait, tu fais des études de sociaux, t'es pas sûr de trouver du boulot, même avec un master.
D'infrastructure et de suivi dans certains lycées professionnels est quand même assez impressionnant. Après, il y a quand même un côté rite de passage qui est intéressant. De toute façon, la question de supprimer le bac, enfin, moi, je me souviens quand j'ai passé le bac, je disais, ah, on va peut-être le supprimer. Et ma mère me répondait, c'était déjà le sujet quand elle l'a passé. Donc, c'est un sujet tous les ans, on se demande si on va pas supprimer le bac au lieu de s'intéresser au fondement de la manière dont structurer notre école. Et ce qu'on apprend, alors moi je ne suis pas par contre sur le fait de supprimer un bloc commun, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait un apprentissage commun au moins, je pense, jusqu'à la troisième. Mais après, pourquoi vouloir que tout le monde soit prof de sociaux? Je ne sais pas, je pose la question.
Tout le monde ne fait pas de sociologie au lycée, hein. Il y a ceux qui ont fait le choix de la SES.
Il n'y a pas sociaux au lycée, mais à la fac.
Admettons, mais attendez,
non mais c'est la voie de garage, tu ne sais pas quoi faire, tu fais sociaux.
Les sciences humaines, ce n'est pas la majorité des étudiants universitaires. Je reprends juste sur le cas universitaire, c'est avec la transition entre bac et qui est normalement la porte d'entrée vers le supérieur et vers l'université. Moi qui suis prof à la fac, je peux témoigner, je peux dire à quel point le niveau est catastrophique à l'université. Oui. En première, en deuxième, en troisième et même en quatrième année. Et en plus, c'est vrai que la
sélection. Le niveau, c'est-à-dire?
Bah, le niveau,
ils sont nuls.
J'ai les perles. Un étudiant.
Mais de base, orthographe, syntaxe, etc.
Grammaire, syntaxe, orthographe, ouais. Connaissances, compétences. J'ai quand même eu l'année dernière un étudiant de troisième année en économie. Hein. Perle de l'université.
Et bachelier.
Qu'est-ce qu'une action?
Forcément.
En finance, hein. Qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'une obligation? Une action, c'est faire quelque chose. Une obligation, c'est être obligé de le faire.
Bah voilà, bah ça c'est.
Cela dit, c'est pas français actuellement.
C'est sûr qu'un étudiant en économie de troisième année, c'est quand même assez grave. Et après, je vous parle pas des fautes de grammaire.
Ah bah ça, alors là.
Ah non, mais ça, alors là, ça, vous allez me trouver sur votre chemin.
Non, mais rien que ça, c'est le scandale national.
Ah non, ça, je suis pas d'accord avec toi. Bah, le système scolaire.
Tu fais de fautes.
Tu l'as pas encore dit, mais je suis pas d'accord avec toi. Le fait d'exclure profondément tous ceux qui font des fautes d'orthographe parce qu'ils ne maîtrisent pas
certaines règles.
Sur une lettre de motivation, tu peux pas te permettre de faire des fautes d'orthographe.
Ouais, tu te fais relire.
Mais c'est pas de tout le système solaire ceux qui font des fautes d'orthographe.
On pose des questions. Je suis désolé, professeur, je reçois des demandes.
Une lettre, tu peux faire relire.
Quand je reçois des demandes de la part d'étudiants de lettres de recommandation qui sont truffées de fautes, je suis désolé, j'ai pas envie de la faire.
Non, mais une lettre de motivation, la faire relire, c'est facile. Mais dans ton quotidien, qu'on considère que t'es un abruti parce que tu ne sais pas écrire un mail sans fautes d'orthographe et que tu t'es planté entre eux. Je trouve ça terrible. Je suis totalement dysorthographique, mais tu te rends pas compte.
Tu te fais relire, tu fais des efforts.
Qu'il m'a fallu pour pouvoir rentrer dans la société.
Mais
quoi.
Ça, on ne dit pas le contraire.
Qui te dit t'es un débile, tu bouges.
C'est pour ça qu'on va juger
avoir le bac en faisant des fautes d'orthographe. Mais avec difficulté. Mal, et j'ai pas le brevet.
Oui, non, mais c'est pas grave. Bac, mais ce que tu veux, tu
on va pas t'exclure la société.
C'est non négociable.
C'est pas si simple. Quand j'écris un tweet et que je fais des fautes d'orthographe, les gens me répondent. Dégage, t'as pas
la copie du bac.
C'est pas la même portée qu'une lettre de recommandation.
Non, mais l'orthographe est une
et le bac aujourd'hui.
Quoi?
Attendez, taisez-vous.
Le bac aujourd'hui, on voudrait le supprimer, notamment, je pense à la tribune de Julien Damon à ce sujet. On veut le supprimer parce que il ne forme pas de façon assez compétente et formelle les élèves, parce que tout le monde l'a, parce qu'on arrive à la fac avec et on ne sait pas ce qu'on
veut faire. Mais ça sert à rien.
Que ça sert à rien. Là-dessus, je suis d'accord. Par contre, et je reprends ce que tu disais, Laure, sur le côté symbolique du rite de passage, il faut qu'il y ait un système national, que tout le monde sur un socle commun soit noté, jugé, auditionné pour savoir quel est le niveau réel des élèves.
Alors, on est avec Olivier qui nous appelle de Rouen. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Vous faites quoi dans la vie, Olivier?
Alors, actuellement, agent immobilier, mais anciennement, j'ai été prof, voilà.
Ah, donc vous avez votre bac, Olivier?
Oui, effectivement, oui, j'ai eu 20 ans, donc un peu plus de 20 ans.
Oui, moi aussi. Olivier, est-ce que pour vous, faut supprimer le bac, puisque tout le monde l'a, et comme le disait Pierre Rondeau, vous pouvez avoir le bac et avoir des lacunes terribles, même en troisième année de fac.
Alors, non, supprimer le bac, non, faut pas le supprimer, mais par contre, effectivement, il faut remodeler totalement le bac tel qu'il est fait aujourd'hui, il faut vraiment totalement le refaire, parce que je vois à l'époque où moi j'étais enseignant, où on voyait des élèves, en terminale notamment, où j'ai eu des élèves qui étaient plutôt bons, et d'autres qui étaient très catastrophiques, qui avaient leur bac quand même, hein, parce que c'est quand même l'année de Covid, et l'année de Covid, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont eu leur bac et qui arrivaient en fac en ayant un niveau, comme le disaient certains de vos auditeurs tout à l'heure, ou même entre vous, où faut être honnête, ils n'ont plus le niveau. On peut pas faire tout le monde des sociologues ou des profs ou des ingénieurs. Et il faut aussi que les parents comprennent à un moment donné que des fois leurs enfants, des fois un bon bac STI ou des bons bacs autres que la filière, la voie royale comme on appelait à l'époque, ça peut être mieux. C'est mieux.
Mais vous avez raison, Olivier. Et c'est vrai que c'est aussi la faute des parents. Il y a des parents qui ne supportent pas l'idée que leur enfant puisse aller en CAP, BEP ou en bac pro. Alors
parce qu'ils ne connaissent pas les débouchés.
Oui, aussi. Alors que parfois, le gamin, il est passionné de cuisine, il veut faire ça. Il serait bien mieux en bac pro, en BEP cuisine que d'aller faire un bac qui lui servira à rien. Et puis d'aller faire des cours de gestion après.
Symboliquement, tu vas à Paris, tu vas aller très...
Vous avez par exemple des élèves qui veulent faire une voie scientifique, mais par exemple pour être laborantin ou autre chose, mais ils sont pas assez bons dans certaines matières scientifiques. Le STL est fait pour, et il vaut mieux faire un bon bac STL qu'un bac scientifique totalement raté. Après pour un CV, c'est mieux.
Mais non, mais vous avez entièrement raison, Pierre Rondeau.
En termes de symbolisme, c'est totalement vrai. Moi, je prends les grands lycées parisiens très prestigieux, le Grand Henri IV, les très grands lycées, qui n'ont que des filières générales. Par contre, ceux qui vont en techno ou en professionnel vont se trouver en banlieue parisienne, dans les ports de Paris, dans les petits lycées peu réputés, peu connus, peu prestigieux. Donc les parents se disent, est-ce que j'envoie mon enfant en bac général dans Paris, ou alors est-ce que j'envoie mon enfant en bac techno ou en bac pro, qui va aller à François Billon ou ailleurs, dans des lycées...
Il y a aussi des très bons lycées privés.
Les lycées privés, il faut avoir les moyens de se les payer. Aujourd'hui, il y a des lycées publics prestigieux qui forment des bacs professionnels.
Oui, dans Paris, il y en a. Magnifique. Il y en a un de la mode, Quai de Valmy, qui est superbe. Il y en a sur les filières électricité dans le 12e, qui est tout neuf. Ils ont des infrastructures dedans. Il y a les moyens, mais ils sont vides. Les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants, il n'y a pas la moitié de la capacité d'enfants possible.
Ils s'imaginent pas envoyer leur enfant pour devenir électrique.
Il faut rétablir la sélection contre laquelle on a tant hurlé, tant manifesté. Je me souviens de la loi de Vaquet. On était tous dans la rue. Quelle connerie. Il faut sélectionner. Mais pour l'avenir de cette jeunesse et faire des métiers formidables, il faut arrêter le pédagogisme démagogique de la classe politique.
Alors, on a beaucoup critiqué les études de sociaux là, depuis quelques minutes, et ça tombe bien car notre invité est sociologue. Michel Fize, qui est auteur de Le Bac Inutile.
Justement.
Oui, mais il a mis Le Bac Inutile, et ça j'adore, aux éditions de l'œuvre. Bonjour Michel Fize.
Bonjour.
Bah, merci d'être avec nous sur RMC. On a donné la sociaux comme ça en exemple, ça aurait pu tomber sur autre chose. Michel Fize, il faut supprimer le bac, on a l'impression que ça ne sert plus à rien, quoi.
Ben écoutez, je crois qu'il faut savoir de quelle école on a envie, de quelle école on a besoin. Je crois que le bac, pour employer peut-être une grande phrase, a été inventé pour empêcher les élèves de réfléchir et d'aiguiser leur sens critique. Voilà. Donc, à l'origine, le bac permettait de sélectionner une poignée de jeunes, issus évidemment des milieux les plus favorisés. Bon, et comme vous l'avez rappelé il y a un instant, derrière l'idée de bac, il y a évidemment l'idée de sélection. Voilà. Donc, un examen qui accueille 93-95% de reçus, voilà, est un examen qui ne remplit plus sa fonction. Car examiner, c'est sélectionner, donc c'est éliminer. Voilà. Alors, il est probable qu'on ne veut plus éliminer, donc on accepte évidemment un nombre plus conséquent de candidats. Alors, le problème, c'est qu'en fin de compte, toute notre architecture est bâtie sur le bac. Hein, depuis les plus petites écoles. Car il faut bien savoir que s'il y a des programmes, c'est parce qu'il y a le bac. Donc le bac suppose qu'il y ait des programmes, le programme suppose qu'il y ait des disciplines, et la discipline suppose qu'il y ait des notations. Voilà. Et pendant ce temps-là, eh bien, on ne permet pas aux élèves de réfléchir sur les grandes questions de notre temps. Par exemple, hein, le conflit en Ukraine, l'état social et économique de la société, la dégradation de la planète. Voilà. Et puis, bien évidemment, il y a des personnes prestigieuses qui n'ont pas le bac. Hein, il suffirait de citer Émile Zola, qui a tenté à plusieurs reprises et qui ne l'a jamais obtenu. Voilà. Et qui était pourtant, évidemment, un formidable écrivain. Donc, le bac n'est pas un brevet d'intelligence. Voilà. C'est encore une fois. Et on a inventé le mot bachotage, voilà. On recrache, littéralement, ce qu'on a appris quelques semaines auparavant, voilà. Et ce recrachage sera...
Et dont on se souviendra plus, d'ailleurs, deux ou trois ans.
Dans les quelques semaines qui suivront.
Comment vérifier la connaissance et le niveau, monsieur? Comment vérifie-t-on le niveau de l'élève, la connaissance, la compétence, que l'enseignement...
Alors, c'est la bonne question. Je pense qu'il faut évaluer. Hein, j'ai entendu tout à l'heure parler du contrôle continu. Voilà. Quand effectivement on ne veut pas tuer le bac, hein, on fustige le contrôle continu et on dit, bah, évidemment, on va noter à la tête du client. Voilà. Mais il ne faut pas faire ça. Évidemment, les copies doivent être, comme je dis, dépaysées. Hein, c'est-à-dire, doivent être appréciées par quelqu'un qui est un autre professeur de l'établissement, mieux encore d'un autre établissement, de manière à ce qu'il y ait des critères objectifs. On peut définir des critères objectifs d'évaluation. D'ailleurs, M. Blanquer a quand même tenté de faire ce qui avait d'ailleurs entraîné quasiment la chute de M. Fillon il y a une quinzaine d'années. Il a introduit 40% de contrôle continu, là où M. Fillon, avec 10%, était tombé de son échelle. Voilà. Donc, encore une fois, le contrôle continu, c'est pas une ignominie. Il faut vérifier. Il faut vérifier régulièrement l'état des connaissances, mais plus encore l'état des compétences. Hein. L'école, c'est pas fait simplement pour bourrer le crâne des élèves.
Mais ce
l'école,
que vous dites, Michel
pour
Fils,
leur apprendre à réfléchir.
Mais ce que vous dites, Michel Fils, en fait, ce que je retiens aussi et je trouve ça hyper intéressant, c'est que s'il y avait pas le bac, en fait, nos enseignements seraient différents à l'école. C'est ça que vous dites, en fait.
Bien sûr, bien évidemment. Voilà. Vous savez,
une forme de liberté pédagogique.
J'ai fait un état des lieux de l'école il y a quelques années, hein, dans un livre que j'avais intitulé « L'école à la ramasse », hein, pour bien montrer que la situation de l'école française, ça a été rappelé. Hein, niveau de français catastrophique, niveau de mathématiques catastrophique. Hein, voilà. Donc si le bac avait de si belles vertus, on n'en serait pas là. Donc encore une fois, éliminons ce titanique, hein, qu'on s'efforce de rafistoler avec des rustines, mais évidemment, ça tient pas. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie. Je me souviens, il y a 12 ans, quand j'écrivais ce livre, beaucoup de vos confrères me disaient, mais bien sûr, monsieur Fille, vous avez raison, mais on peut pas le dire.
Dans Estelle Midi, on a beaucoup d'auditeurs.
Vous connaissez que le bac a quand même fait de la France la grande puissance qu'elle est devenue. Alors maintenant, il est plus ce qu'il est. Mais vous ne pouvez pas nier qu'il a été, à un moment donné, un formidable outil de progrès et de connaissances et de scolarité.
Non, mais ça, c'est sûr. Mais là tu vois bien qu'à l'époque, quand on l'a. Enfin, moi, je sais pas, quand je l'ai passé, c'était 70% de reçus.
D'accord. Et donc, on garde la sélection. Donc, on garde quand même une forme de sélection, Michel. Bah,
évidemment,
Fils,
mais c'est une sélection avec contrôle continu. On a Samuel qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour, Samuel.
Bonjour à tous.
Vous faites quoi dans la vie, Samuel?
Je suis artisan dans le bâtiment.
Et vous avez un bac, un BEP, un CAP?
Alors moi, du coup, j'ai un CAP. J'ai arrêté l'école à 15 ans et demi après le brevet des collèges. J'étais pas fait pour les études. Et du coup, je suis parti en alternance. J'ai fait un CAP électricien, hein, pour revenir sur chez l'électricité.
Non, mais vous avez bien raison.
En 2 ans, et je suis sorti de l'école à 18 ans, donc j'ai été embauché. J'ai fait mes armes, 20 ans j'étais chef de chantier et du coup maintenant j'ai 26 ans, je suis artisan et j'ai ma maison, ma voiture, voilà. Et pourtant j'ai pas été jusqu'au bac parce que pour moi on faut supprimer le bac, non, mais je pense que en fait à la fin de la troisième des collèges il faudrait faire une sélection. On sait très bien qu'on a qui vont aller au bac mais ils savent même pas ce qu'ils veulent foutre. Moi j'ai des stagiaires.
C'est ça, est-ce que toi tu savais ce que tu voulais faire dès le début?
Eh ben, moi, ce que j'ai fait, et ce qui était très bien, c'est que du coup, moi, après ma quatrième, on m'a orienté vers une troisième professionnelle, DP6, on appelait ça à l'époque, découverte professionnelle 6 heures. Et on avait la chance de pouvoir faire plusieurs stages dans l'année, je ne sais plus le nombre de semaines, et en fait, on devait essayer plusieurs choses. Et moi, j'ai fait le bâtiment, et j'ai trouvé ma vocation. Et pourtant, on m'a dit, quand on dit encore maintenant les stéréotypes, ouais, t'es dans le bâtiment, t'étais un cancre à l'école. Alors, oui, d'accord, j'étais un cancre à l'école, je ne peux pas dire le contraire, mais.
Et alors
mais disons qu'au moins, maintenant, j'ai un métier qui est très utile. Électricien, il y a une pénurie, hein, je ne vous le cache pas, demain, vous l'embauchez.
Oui, on en aura toujours besoin et ce n'est pas les machines qui vont vous remplacer. Mais est-ce que je peux vous poser une question très indiscrète, Samuel? Vous gagnez combien?
Entre 2 et 3 000.
Voilà, et donc vous êtes très heureux, vous avez votre maison, votre voiture, vous gagnez bien votre vie.
Mais tu sais que chez les soudeurs, par exemple, aujourd'hui, on a une énorme pénurie de soudeurs, on en cherche 7000 en France. L'enjeu dans les lycées professionnels, c'est de faire en sorte que les gens finissent, parce qu'ils sont embauchés avant même d'avoir terminé leur année.
Mais les ferronniers, c'est pareil, il y en a plus, il y a plein de métiers, tous les métiers, en fait, manuels, les artisans, etc. Il y en a plus, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Samuel, merci en tout cas à tous les auditeurs qui nous ont appelés pour ce sujet du baccalauréat, et merci à Michel Suisse, sociologue, qui était notre invité sur ce débat. Faut-il supprimer le baccalauréat parce que ça ne sert plus à rien, Rémi?
Eh bien, il y a certains symboles auxquels les Français sont attachés, on le sait, et si c'est non à 71%.
Vive la France.
Oui, donc c'est quand même une très large majorité.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.
On va s'intéresser à la bonne fortune du jour. C'est celle des entreprises du CAC 40. Jamais leurs profits n'ont été aussi hauts. Une bonne nouvelle, bien sûr, pour leurs actionnaires, mais pas forcément pour leurs salariés qui, eux, n'ont pas vraiment vu la couleur de cet argent, Rémi Barré.
Exactement. C'est un débat qui revient régulièrement. Faut-il, et si oui, comment faut-il partager les méga profits des entreprises du CAC 40. Bah, au vu des derniers chiffres, la question se pose plus que jamais. Donc je rappelle ce chiffre, plus de 137 milliards d'euros. C'est la somme cumulée des profits engrangés par les entreprises du CAC 40 au cours de l'année 2021. Chiffre établi par l'agence d'analyse Bloomberg, c'est du jamais vu. 137 milliards d'euros de profits en 2021, alors que c'était seulement 39 milliards d'euros en 2020 en raison de la pandémie. 137 milliards d'euros, c'est encore mieux qu'avant la crise, puisqu'en 2019, ces mêmes profits atteignaient 79 milliards d'euros. Exemple, parmi d'autres, de la cuvée exceptionnelle de l'année 2021, le groupe Total, qui pourrait être annoncé la semaine prochaine, le résultat net le plus élevé jamais réalisé par une entreprise française, autour de 15 milliards d'euros. Total, profit, 15 milliards d'euros en pleine hausse des prix de l'énergie et des carburants, ça fait réagir évidemment. Si le parti La France Insoumise en particulier ne cesse d'appeler à une taxe sur les profiteurs de la crise, c'est ce qu'ils disent, d'autres réclament au moins des hausses de salaire pour les salariés des dites entreprises concernées.
Laure Clausier,
oui,
qu'il faut,
bravo. Oui, je dis bravo moi.
Pardon, je suis.
Il faut obliger les entreprises à...
Pas du tout. Ah, pas d'accord. Du tout. Laissez tranquille le CAC 40. Arrêtez de penser que dans le CAC 40 on se gave.
Bah
on
a là, oui,
des
oui,
bénéfices.
Gave,
mais
oui.
Heureusement. Déjà un, c'est du rattrapage post-crise Covid. Deux, les trois quarts des profits sont faits à l'étranger. Le salaire moyen dans les entreprises du CAC 40, c'est 50 000 euros par an. Donc je pense que le sujet de l'augmentation des salariés.
50 000 euros. Vous parlez des patrons là.
Non, pas du tout.
Bah,
je parle du salaire moyen.
Les salariés du CAC 40, c'est parmi les mieux traités en France.
Donc
ils sont heureux.
Augmenter les salaires. Oui, alors pas dans le CAC 40. Enfin, je veux dire,
vous avez aussi des bas salaires chez Total. Vous avez aussi des bas salaires.
Tu les as vus se plaindre, les salariés de chez Total?
Non, mais là, t'as vu par exemple se plaindre des salariés de chez Decathlon, des salariés de la grande distribution. Donc voilà, c'est aussi des grands groupes. C'est des groupes qui sont cotés en bourse. Donc
à un moment, le problème, c'est que tout est mal posé. CAC 40, ça n'a rien à voir dans la discussion. Si on parle de CAC 40, de l'argent qu'on peut récupérer. Parce que parfois il y a des aides publiques. Par exemple, Total avait refusé les aides publiques au moment de la pandémie.
Et quasiment tout le CAC 40.
Voilà. Si certains.
C'est juste de la com, pour le coup. Enfin,
c'est de l'argent.
Si tu t'attaques à l'argent de l'évasion fiscale, s'il y en a, personne. Enfin, quand on le sait.
Tout le monde sait.
On est d'accord, Adrien, qui va défendre une position contraire à ça. Si tu regardes effectivement les aides publiques et que tu n'en donnes plus à ces entreprises-là. Ok, mais après tout ce qu'a dit Laure est vrai. La plupart de l'activité économique, elle est faite hors France. Par exemple, un groupe comme Louis Vuitton,
LVMH,
10% de l'activité est en France. Les salariés sont hyper bien traités. Ils sont intéressés. Au résultat économique.
Il y a des salariés au SMIC dans ces entreprises.
Oui, mais tu peux faire
plus. Tu les as entendus se plaindre, les salariés? Entre les intérêts, les comités d'entreprise. Et c'est franchement, ils sont hyper heureux, les salariés de ces entreprises-là. On se trompe complètement.
Ils sont pas tous hyper heureux, mais c'est vrai qu'on se plaint moins dans le privé.
Trouve-en.
Mais tu te plains moins dans le privé parce que tu risques de perdre ton travail.
Vous vous trompez de cible. Avec le CAC 40. Vous trompez de cible.
Bah
après, si tu veux avoir un discours.
Mais dès lors que tu fais des énormes profits, tu peux faire ruisseler tes profits quand même.
Le Venezuela.
Ça me paraît pas incohérent, Daniel.
Mais vive les dividendes. Mais pour tout le monde. Pour l'ensemble des salariés.
Pour la plupart des salariés actionnaires.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand l'action monte et que toute l'entreprise en profite. Développons ça, développons l'actionnariat salarié et parlons de l'augmentation des bas salaires. Vous avez raison, effectivement, il y a des salariés au SMIC. Il y a aussi énormément de choses à faire sur le travail fractionné. Si vous travaillez 3 heures par-ci, 3 heures par-là, c'est pas dans les entreprises du CAC 40, c'est plutôt pour les femmes de ménage, pour les caissières, etc. Là, il y a un sujet. Mais
il y a aussi des femmes de ménage dans les entreprises du CAC 40. Vous savez,
mais elles sont, c'est des intérimaires, elles sont pas salariées directes. Non, mais ça, c'est un sujet.
Oui.
Mais sans arrêt prendre le chiffon rouge du CAC 40 en disant regardez tout l'argent qu'ils ont, regardez comme leurs actions ont grimpé et les salaires n'augmentent pas, c'est dire qu'on ne peut pas parler du vrai sujet qui est les bas salaires, le travail fractionné et l'actionnariat salarié.
Est-ce qu'il vous paraîtrait normal, vous Adrien Matou, d'obliger les entreprises à augmenter les salaires finalement quand elles font d'énormes profits, parce que ces profits ils sont aussi créés par les salariés qu'on appelle les salariés en première ligne. Voilà, il y a pas, c'est pas que dû au travail du patron quoi.
Non, c'est même quasiment intégralement dû au travail des salariés. Mais je suis, bah si, c'est les salariés qui créent la valeur, c'est pas les patrons.
Oui.
C'est
normalement méchant.
Mais en fait, je suis ravi d'apprendre que tout va bien. Il y a des entreprises du CAC 40 qui ont engrangé 140 milliards de profits pendant la crise. Il y a 10 millions de pauvres en France. Le SMIC et à un niveau beaucoup trop faible pour vivre dignement, mais il n'y a pas de sujet.
Mais c'est pas dans le CAC 40
attends,
le problème.
Il y a les salariés au CAC 40 dans l'ESMIC. Au bout d'un moment, il faut atterrir, il faut revenir sur Terre. Et il faut poser la question de la répartition des richesses, parce que je suis désolé, mais un actionnaire ne travaille pas ou qui se contente d'engranger des bénéfices qui n'ont aucun rapport avec sa charge de travail, alors qu'il y a des gens, y compris dans le CAC 40...
Ah, mais vous êtes contre le capitalisme. Non, mais pas du tout. Ah bah si, vous êtes contre le système d'action et la prise de risque et la rémunération des actions.
Alors, c'est un petit peu énervant, dès qu'on essaye d'avoir un discours un petit peu social ou de montrer qu'il faut réguler le capitalisme. Je sais qu'on nous sort l'URSS, Cuba, le Venezuela, etc. C'est juste pour décrédibiliser et empêcher d'avoir un débat honnête et argumenté. Mais ça ne marchera pas tout le temps. Sinon, on raisonne à la coup de caricature et on débat même plus. Je pense qu'une échelle des salaires, par exemple, pour limiter les écarts de 1 à 20, évidemment...
C'est la proposition d'Anne Hidalgo, ça.
Par exemple.
Comment tu vas faire sur un groupe comme Vuitton ou Total?
Ils vont augmenter leurs salariés qui sont moins...
Non, mais quand tu sais que l'activité, elle est construite principalement à l'étranger, comment tu vas faire ça?
Mais là, on parle des salaires en France, là.
Oui.
On parle pas
l'impose pour les salariés en France.
Donc, tu vas l'imposer alors qu'il y a des vendeurs dans les boutiques partout dans le monde. Mais en France, tu vas appliquer une loi qui va être différente, qui va être exclusive pour les salariés en France. Alors que ces salariés-là ne se plaignent pas.
Qu'ils
ont des avantages et qu'ils sont salariés actionnaires et qu'ils sont des intéressements. Qui en font vraiment des salariés heureux, Adrien. Donc, tu vas aller leur dire, alors qu'ils n'ont rien demandé, qu'ils sont heureux et qu'ils ont des participations. Donc le salarié est forcément malheureux à tes yeux.
Non, il n'est pas forcément heureux non plus.
C'est pas une fable. Moi, je pose la question. C'est pas la même chose. Toi, tu pars du principe qu'il y a une opposition frontale.
Non.
Je pars du principe. Stop, parce que justement, tiens, voilà, on va régler le conflit entre vous deux. On a Nicolas qui est salarié d'entreprise du CAC 40. Donc il va nous dire ce qu'il ressent. Bonjour Nicolas.
Bonjour Estelle et bonjour à tout le monde.
Vous êtes, je vais pas vous demander de quelle entreprise vous êtes salarié, Nicolas.
Je vais éviter si ça vous embête pas.
Oui, non, écoutez, je comprends, Nicolas. Vous faites quoi dans la vie?
Si tu lui demandes, il peut pas le dire.
Bah si, mais il peut dire dans la boîte.
Commercial, vendeur.
On va dire que je fais du commerce.
Voilà.
Ok, donc c'est une entreprise qui vend. on n'en saura pas plus. Nicolas, Daniel Riolo nous dit les salariés des entreprises CAC 40 sont heureux. Est-ce que vous êtes heureux dans votre entreprise?
Alors, moi, je suis pas malheureux dans mon entreprise. Mmh. Par contre, effectivement, je suis pas content de mon salaire. Mais ce qui me pose problème aujourd'hui, et je veux pas qu'on oblige les sociétés du CAC 40 à augmenter leurs salariés. Le problème, il est pas là. Parce que les entreprises du CAC 40 défendent leurs morceaux. Et ça, c'est normal. Le problème, il vient des salariés et des syndicats.
Mais c'est-à-dire?
Je vous explique pourquoi. Tous les ans, comme vous le savez, dans ces boîtes, il existe une NAO. Négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Mmh.
D'accord ? Mmh. Moi, dans l'entreprise où je travaille, tous les ans, il y a cette négociation. Et tous les ans, on a droit à la même réponse, qui est, on ne peut pas vous donner d'augmentation, parce que, vous comprenez, il y a le Covid, il y a la crise, il y a machin, il y a toujours quelque chose.
Oh, mais là, cette année, il n'y a rien.
Cette année, il y a le Covid, vous comprenez. On fait des bénéfices magnifiques, mais il y a le Covid.
Il y a toujours une incertitude.
Et derrière, les salariés, enfin les syndicats qui représentent les salariés, au lieu d'essayer de mettre quelque chose en place, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils vous disent, ok, d'accord, pas de problème. Bon ben on verra pour l'année prochaine.
Bah, et vous n'avez pas de bon syndicat. Hein.
Ouais. Et faut négocier tout seul, Nicolas, surtout.
Mais je vais vous dire, moi j'ai été représentant de mes collègues. J'ai été représentant. J'ai arrêté. Je vais vous dire pourquoi. Mes collègues s'en fichent. Ça ne les intéresse pas.
C'est pas leur salaire, ça les intéresse pas d'être mieux payés, ça m'étonne.
Mais parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt de, faire des élections syndicales.
Nicolas, on peut vous poser deux trois questions sans rien révéler de votre situation. Vous pouvez donner votre salaire annuel?
À peu près 28 000 euros net.
Ouais, donc vous êtes à 2002 par mois, quoi.
Ouais, je me plains pas en soi, comme je vous dis, c'est pas.
Et est-ce que votre entreprise a, comme beaucoup d'entreprises du CAC 40, un comité d'entreprise très très bien fourni? Est-ce que vous avez des avantages à côté, des intéressements?
Alors, j'ai effectivement un comité d'entreprise qui est plutôt intéressant par rapport à ce qui se fait dans d'autres sociétés.
Mmh.
Et j'ai aussi effectivement un intéressement à une participation. Par contre, là-dessus...
Donc, Daniel, il y a un complément à votre salaire annuel,
quand même.
Oui, alors par contre, Daniel, là-dessus, je vais me permettre de ne pas être d'accord avec vous sur une chose très simple. C'est que l'intéressement à la participation, c'est un résultat par rapport aux bénéfices qui est réalisé par la société. L'année où il n'y a plus de bénéfices, l'entreprise, elle me verse zéro.
C'est ça, c'est pas du salaire, bien sûr. C'est pour ça que l'année prochaine, ça va remonter. Au vu des bénéfices du CAC 40, cette année, ça va être naze, mais l'année prochaine, ça va remonter.
Oui, mais en même temps, Nicolas, il n'a pas l'assurance que ce. C'est pas un salaire net.
Très bien, mais sur le fond, j'entends Nicolas, il dit bon, certains collègues ne veulent pas venir dans une forme de lutte parce qu'ils ne sont pas assez représentés en termes de syndicats. Lui, il aimerait discuter pour avoir des augmentations et tout. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On va aller voir ce patron, on va l'obliger à.
Mais tu peux obliger, la question c'est
vous allez obliger qui? L'État va intervenir dans une boîte privée pour lui dire expliquez-moi comment ça va se passer, parce que là, pardon Adrien, je risque de retomber dans le Cuba et l'URSS là. Explique-moi comment ça va se passer.
On va demander à Benjamin Hamard,
il s'est jeté, donc ça va forcément être les grandes manœuvres et on renverse la table. Qu'est-ce que tu veux que ce soit
d'autre? Et il peut t'expliquer comment il ferait, mais enfin c'est quand même.
Oui, et comment tu vas faire par rapport à la concurrence internationale après quand t'es une boîte?
Il va t'expliquer.
Tu vas faire le programme de Mélenchon quand il va dans une émission de télé et que tu lui dis comment tu finances ton programme. On le finance pas.
Daniel, il est pas chef.
Mais non, mais on le finance pas.
Daniel, stop. Est-ce qu'on peut au moins écouter ce que va dire Benjamin Hamard? Parce que je suis sûr que Benjamin Hamard, il a plein de solutions. Benjamin Hamard, porte-parole CGT du Val-de-Marne. Vous avez vu comme on vous accueille bien, Benjamin?
Bon courage, Benjamin.
Ouais, je vois bien. Par contre, je vois que Daniel Riolo est très désagréable. La prochaine fois qu'on se retrouvera sur le plateau.
Il faut rien dire.
Il fait encore de la ventriloquie. Il fait de la ventriloquie. Il sait déjà avant moi ce que je vais dire. Remarquez-moi, c'est pareil. Je sais aussi ce qu'il va dire.
Benjamin, qu'est-ce qu'on fait pour ces entreprises qui font des profits de malades?
Alors, mais déjà, si vous me permettez, avant de trouver un remède, on va déjà poser un diagnostic. Moi, je suis sidéré d'entendre Daniel Riolo de dire que les salariés du CAC 40 sont ravis. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous dire un truc. Dans le CAC 40, il y a une entreprise qui s'appelle Sanofi. Oui. Elle reçoit des mannes financières d'aide publique de la part de l'État.
Ça, je suis d'accord avec vous. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non. Il faut pas. Non, il va exprès là-dessus pour être en désaccord avec vous. Laissez-moi.
Daniel, laissez-moi.
Là-dessus, je suis d'accord avec lui.
Mais il est incroyable. Alors, laissez-moi finir mes phrases. Au bout de trois syllabes, laissez-moi parler quand même. Donc, ils reçoivent des aides publiques massives derrière. Du point de vue du CICE, c'est monstrueux. Derrière, d'accord. Les salariés de Sanofi, ils sont tellement contents de leur salaire qu'il y a quelques jours, ils ont envahi les négociations pour exiger des revalorisations salariales en brûlant absolument des palettes devant la boîte. C'est vous dire s'ils étaient ravis. Donc, en réalité, non, pas du tout. La réalité salariale en France,
elle n'est pas du tout satisfaisante,
vous savez. Attendez, mais c'est déjà important de le dire, parce que depuis tout à l'heure, il y a des gens qui répètent qu'au CAC 40, ça se passe bien, mais c'est une blague.
Non, Benjamin Hamard, j'ai précisé les aides publiques tout à l'heure, soyez honnête. Benjamin, sois honnête, s'il te plaît. Je l'ai dit, les aides publiques, tout ce que tu as dit, Daniel Sanofi, je suis d'accord avec toi.
Daniel Riolo, je te dis une chose simple, quand tu viens de dire à plusieurs reprises, et tout le monde pourra le réécouter, que la réalité salariale dans les entreprises du CAC, elle est merveilleuse, c'est n'importe quoi. La réalité salariale dans les entreprises du CAC, elle est désastreuse. Voilà. Par contre, il y a un accaparement des richesses. Je ne crois pas non plus, ça c'est pas vrai. Parce qu'Estelle Denis, depuis tout à l'heure, quand il raconte qu'au CAC 40 ça se passe bien, vous l'avez laissé dérouler. Donc moi je précise, clairement, non, c'est faux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous dire ce qu'on peut faire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça veut dire qu'en fait l'État, enfin, la puissance publique, elle n'aurait aucun pouvoir. Mais il y a des leviers. On distribue en France 150 milliards d'aides. Est-ce que je peux terminer une phrase sans être coupé au bout de la première syllabe? Merci. Donc, chaque année, on distribue 150 milliards d'aides publiques aux entreprises. C'est un sacré moyen de pression. Nous, ce que l'on dit à la CGT, il faut moduler ces aides publiques en fonction de la politique de l'emploi, de la politique de salaire, de la norme environnementale. Et laissez-moi vous dire que si vous avez effectivement cette conditionnalité des aides publiques, eh ben là, c'est un sacré moyen de pression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je rappelle qu'en France, c'est l'État qui définit la hausse du SMIC. Oui. Et ça, derrière, ça a un impact sur toute l'échelle mobile des salaires. Or, le SMIC en France, au 1er janvier 2022, il a été augmenté de 0,9%.
Oui, mais le SMIC, c'est pas que pour les entreprises du CAC 40.
Non, mais attendez, excusez-moi. Moi, je vous parle des salaires en France.
Oui, mais moi, je vous parle du CAC 40.
Et hors du CAC, moi, je vous parle de toutes les entreprises. Mais, dont celle du CAC.
Non, mais attendez. Si on parle pas de la même chose, on va pas s'entendre.
Si on parle de la même chose, le SMIC dans les entreprises du CAC, c'est le SMIC, d'accord ? Mmh. Augmenter le SMIC en France dignement pour des millions de salariés qui sont au SMIC dans les entreprises du CAC, ce sera une excellente nouvelle.
En tout cas, merci beaucoup à Benjamin Amard d'avoir été avec nous. On termine avec le sondage. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, @EstelleMidi. Doit-on obliger les entreprises qui font des méga profits à augmenter les salaires ? Ça donne quoi, Rémi ?
Tu étais peut-être seul sur le plateau, Adrien.
Mais l'immense majorité. Forcément, la question, elle est tellement posée.
L'immense majorité de ceux qui nous regardent et nous écoutent sont derrière toi, sache-le.
Ah bah oui, bah parce que moi, nous, on n'est pas derrière ça, peut-être.
C'est oui à 84%.
RMC, les meilleurs moments d'Estelle Midi.